Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques instants, Sylvie Neve nous présentera, comme chaque troisième tumulte de chaque mois, son poème provisoire. Puis, dans 30 minutes, le journal de Tumulte avec Philippe, nous recevrons Laurent Cordonnier et Frank Van Velde, tous les deux économistes et enseignants à l'université Lille 1. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1087. Jean au micro, salut. Avec Van Morrison, deux titres, et juste après, ce sera le poème provisoire de Sylvie Neve.
Yeah.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, le moment du poème provisoire de Sylvie Neve.
Bonjour, tumulte. Bonjour l'hiver, ou presque. Dernier trimestre de l'année, le poème provisoire rejoint encore le désert et la région du Proche-Orient. Orient proche, buissons. Quelques buissons isolés séparent la distance qui sépare l'utopie de la réalité. Méridionale et culminante se prolonge. Sons isolés, buis, toupies. Déroulement vers l'est et au nord jusque dans. Peu de sable, mais des cuvettes salées et gypseuses le long du golfe. Voyageurs, péninsule, traverse le Yémen, sud-oriental et au-delà, manteau de limon, mouche. Oh, mouches peuvent être parfois autant que le vent. Sinaï, Aqaba, Grande Syrte, cristallin à fleurs, les troncs de Tamaris, ni les rivages de Tripolitaine, noueux et ravinés, le socle ancien. Déserts se font insensiblement, mer sous forme de rosée ou de brouillard, oued, longue vallée étroite descend, mais les plateaux sémitiques, coupés par des failles, le dos du méhariste, dialecte relicte, désert, disert. Couplet, refrain, itinéraire des caravanes reliant de nos jours l'écoulement de l'air, de plus en plus nombreux en Samarie, en Galilée, de partout le désert, bordé de marécages aux extrémités, nord et sud, plus au sud, Pétra, on s'approche, à l'est, de la mer Rouge, péninsule du Sinaï se prolonge vers la steppe à pluie d'été, collines d'Hébron bordées à l'ouest, au nord le long du golfe d'Aqaba, ni le plateau de Cyrénaïque, tronc de Tamaris, jusque dans la Libye sud-orientale, manteau de limon crevassant, et au-delà, à la base de l'escarpement, jusque dans le Néguef sud-oriental, désert, jamais vide, manteau de limon, trêve. Au-delà du plateau de Transjordanie, à la base de l'escarpement jusqu'à la limite de partage des eaux entre l'Ouadi Araba et la mer morte, chameaux devenus synonymes, mouches peuvent être parfois d'un désert que l'on n'imagine plus, sang. Chameau revenu, limon crevassé autant que le vent, récit plissant, étroit pupitre, sable sur les versants de l'air, métamorphique, gneiss et schiste, cris, bordé de marécages aux extrémités, des laves et intrusions ou extrusions de granodiorite et de granit, porphyres et rhyolites et quartz. Espoir de limon de langue, tronc de tamaris, espoir crevassé, vallée, rare et la route, sillon, bande de terre dans un pays de désert. Désert égyptien du Sinaï, mauve, rose, violet. Désert de Judée, désert de Qumran, près de la mer morte. Désert du Néguef, pâle et monochrome, recouvert de leus. Désert d'Isère, jamais vide. Tronc des tamaris, noueux et ravinés, manteau de limon crevassé par les ouèdes, mordoré le manteau de limon de langue, ressac ressassé. Distance qui sépare l'utopie de la réalité, terres qui ont été, terres confisquées, maisons détruites, routes de contournement qui ne mènent, raisons qui ont été écartées, se croire au bord, massif volcanique au sud, coupole du souffle, souffle, Xour mauritanien de pierre sèche, acropole mozabite d'abondance. Abondance, se croire au bord. D'un océan véritable, part de l'héritage. Manteau de limon de langue, la question qui est déplacée. Au revoir, tumulte. Plus d'hiver encore, troisième mardi de décembre, et plus de désert encore.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neve, chaque troisième tumulte de chaque mois. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans une petite quinzaine de minutes, avec Philippe, nous recevrons deux économistes et enseignants à l'Université Lille 1, Laurent Cordonnier et Franck Van Velde. D'ici la musique avec Eugène Chadbourne, Johnny Cash in Philippines. Ceci pour vous rappeler la venue de Eugène Chadbourne à Rivière près d'Arras samedi 19 novembre à 20h30, rue d'Arras donc à Rivière, à la brasserie. He could hardly make it to the can. For a lifetime, the power's his. A little old fellow who could hardly piss. USA wants to save the Navy bases, 'cause it costs too much to fix our ships. In other places, it's cheap, cheap, cheap Filipino labor. Marcos' wife, what a big bitch. For his death, she had the itch. Then will they still make Levi jeans?
give blowjobs to Marines. CIA itching for a battle. They could shake things up like a baby with a rattle. But it's cheap, cheap, cheap Filipino labor. Corazon Aquino, what a pretty little thing. But it was George Bush that pulled her strings. He had her walking on a tightrope wire. Soon she falls into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flames keep going higher. And it burns, burns, burns the ring of fire. Now they take a $20 bill and fold it, and they say, what does it mean? I think it means the USA is back in the Philippines. They tell you that it's just a train admission. I wish to hell they'd go to somewhere else to do their pissing. I fell into a burning ring of fire. Well, we go everywhere, and the body count gets higher. It's cheap, cheap, cheap Filipino labor. It's cheap, cheap, cheap Filipino labor. Thank you!
Like Taliban now, baby. You know, she comes around just about 5 feet four. I'm from her head to the ground. You know, she comes around here. I did the bad midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. How? Whoa. Ah. Ah. G-L-Y.
Gloria.
G-L-Y.
Gloria.
I'm gonna shout it all night.
Gloria.
I'm gonna shout it every day.
Gloria.
Yeah, yeah, yeah. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. Make me feel all right. G-L-Y-E.
Gloria.
G-L-Y-E.
Van Morrison et Zem, évidemment, le morceau de référence Gloria.
Hey sister, have you heard? Some people stand like trees without a word. And what that means.
Le groupe Violent Femmes, extrait de l'album Hallowed Ground, paru en 1984, Never Tell. Juste après, ce sera le journal de tumulte.
Oh, please pardon me, mister. You know, I just didn't hear you that first time that you said that. But now that you repeated it for me, I'll be sure to do what I can. Yeah, no, I'm gonna do what I can, do what I can. Pardon me, Father. You know, I just didn't hear you. That first time that you said that. No. You repeat it. I'm gonna do what I can. Do what I can. Yeah, do what I can. Do what I can. Do what I can. But no more. It's of utmost importance, we're dealing with volatile substance. It's of utmost importance, we're dealing with volatile substance. It's of utmost importance, we're dealing with volatile substance. It's of utmost importance, we're dealing with volatile substance. I've had so much on my mind. I was so glad when I died. Baby, can you keep a secret for me? And make sure no one finds out, 'cause then the lights will go out and I will find you out and I will cut you up. Ask me why, because I said I'm gonna do what I can, 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 do what I can. But I'll have none of that. Gonna turn rat faint. What do you wanna do? You wanna see what it's like to sink down, sink down, sink down. down, down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river. Don't you know no one? You never tell on someone. Don't you know no one? You never tell on someone. Don't you know no one? Never tell us someone. Don't you know no one? You ain't never gonna tell us someone.
Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub, le journal de Tumulte avec Philippe. Nous recevons Laurent Cordonnier et Franck Van Duel, tous les deux économistes et enseignants à l'université Lille 1. Et au sommaire de ce journal, le nouveau plan de rigueur en France et la situation de la dite crise de la dette en Europe. Et puis Philippe nous donnera un éclairage philosophique sur la notion de monde. Et pour commencer donc, peut-être Laurent, si tu veux bien présenter Franck Van Duel, puisque nous avons donc la chance d'avoir deux économistes de l'Université Lille 1 dans notre studio. Franck qui est de passage à Arras.
Oui, c'est une chance et une opportunité qui ne se produit à peu près que tous les 5 ou 6 ans. Donc c'est un peu comme le retour des comètes. Oui, nous sommes heureux d'accueillir ce soir à notre table Franck Van Duel, qui est un collègue chercheur et économiste à l'Université Lille 1, qui était de passage à Arras, on va dire les choses comme ça, puisque cet après-midi, il y avait à l'Université pour tous d'Arras, qui est donc une université, on va dire, populaire quoi, et associative, le lancement d'une série de cycles de conférences sur les grands économistes. Voilà. Et donc la première séance sur les grands économistes avait lieu dans le courant de l'après-midi, et elle portait sur l'œuvre de David Ricardo. David Ricardo, qui est l'économiste classique parmi les classiques, qui est aussi, on peut dire comme ça, le père de Marx, hein, puisque Marx s'est proposé comme projet de prolonger l'œuvre classique de Ricardo tout en la retournant en une critique de l'économie politique classique contre le capitalisme et en dénonçant l'exploitation. Bon, je vais un peu vite dans tout ça. Mais donc voilà, tel était l'objet de cette conférence à l'Université pour tous d'Arras. Et ce qui fait que, bon, eh bien, on en profite pour avoir avec nous Franck Van Duel ce soir. On peut le présenter un petit peu plus, ouais, en disant que en France, c'est l'un des... J'hésite sur le terme. L'un des derniers économistes keynésiens, français, dans le sens où c'est l'un des derniers qui connaît parfaitement Keynes et qui est capable, à partir d'une véritable connaissance de Keynes, de continuer à prolonger ses travaux et à en restituer la connaissance pour les générations futures. On peut peut-être signaler l'un de ses ouvrages importants qui est « Monnaie, chômage et capitalisme » qui est paru, je le fais dans l'ordre là Franck ?
Tout à fait.
Ou c'est chômage, monnaie ? Non, c'est monnaie.
Monnaie, chômage et capitalisme, oui.
Monnaie, chômage et capitalisme qui est paru aux éditions du Septentrion et qui est une tentative assez héroïque pour essayer de faire comprendre Keynes à l'honnête homme, on va dire, celui qui veut quand même se donner un peu de peine pour le comprendre, tout en évitant de se coltiner les 14 000 pages d'écriture de Keynes.
Eh ben, Franck Vandevelde, pardon, bienvenue sur PFM et dans l'émission Tumulte. Franck, est-ce que tu te reconnais un peu dans le portrait rapide, évidemment, fait par Laurent comme le dernier connaisseur de Keynes?
Pas le dernier, parce qu'il y a encore quelques économistes en France qui essaient de reprendre l'héritage, le message de Keynes, qui voit en Keynes le véritable continuateur de Marx. Si les marxistes s'en étaient rendus compte assez vite, peut-être que la face du monde en aurait été changée. Mais à une certaine époque, les marxistes ont considéré que Keynes était leur principal ennemi. Et c'est bien dommage. Peut-être que la crise sera l'occasion d'une réconciliation entre les marxistes un peu ouverts et puis les véritables keynésiens.
Alors Franck, si je ne me trompe, tu as fait un article sur le monde.fr sur la dette grecque.
Oui, effectivement.
Voilà.
Effectivement.
Dans lequel il y a une distinction qui est faite entre dette publique et dette nationale. Alors, on va évidemment tout à l'heure parler de la situation de la crise en Europe. Ben, on te demandera un petit peu d'intervenir sur ce point-là et je te demanderai de préciser cette différenciation hein, sur ces deux dettes, l'une étant peut-être incluse dans l'autre, mais on verra. Alors pour cette émission, donc on a dit qu'on allait parler un peu du plan de rigueur, le dernier plan de rigueur défini en France. Et puis en cours de route, Philippe fera une intervention sur la notion de monde, d'un point de vue, un éclairage philosophique sur cette question qui est un peu en écho à la crise qu'on vit. Alors d'abord le plan de rigueur en France, Laurent.
Alors, on peut peut-être présenter les choses de la manière suivante en disant que là où nous en sommes aujourd'hui, même si on ne va pas remonter à chaque fois à l'origine de la crise économique et financière, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est ce point que l'on craignait, ce retournement historique que l'on craignait depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, le point à partir duquel il ne suffirait pas de confiner la gestion du problème des dettes publiques au cas de la Grèce pour empêcher que ceci se répercute ou que la contagion envahisse la dette d'autres États, et en particulier aujourd'hui l'Italie qui est dans la tourmente, et avec en domino suivant la France. Alors on peut dire les choses suivantes. La chose suivante, c'est que sans doute si les gouvernants européens avaient pris les mesures suffisamment tôt et suffisamment énergiques pour faire en sorte que le problème de la dette grecque soit bien confiné au problème de la dette grecque, je pense que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Bon. Or ils ont agi depuis 2 ans uniquement à reculons, le dos au mur, en essayant de trouver des pansements à la dernière minute, en étant toujours un peu trop court, petit bras sur l'ampleur du dispositif mis en place, qui fait qu'ils n'ont pas, de ce fait, réussi à empêcher que Un, il y a un doute abyssal sur la capacité de la Grèce à rembourser sa dette, mais maintenant on y est, hein, puisque on sait qu'elle fera défaut sur une partie de son endettement. Mais surtout, ce qu'ils n'ont pas réussi à éviter, c'est que de ce problème, les marchés financiers ne finissent pas par se défier d'autres endettements publics, comme celui de l'Italie et demain celui de la France. Et donc on en est à ce moment précis où les taux d'intérêt s'envolent sur la dette italienne parce que les prêteurs ou les institutions financières qui prêtent à la Grèce, eh bien, à l'Italie, ont pris peur. On prit peur et on est vraiment dans le domaine de l'irrationnel. Hein. C'est pas à nous d'apporter la rationalité de la peur. Bon. Donc on a franchi ce seuil à partir duquel les institutions financières pensent que l'Italie ne pourra pas honorer sa dette. Et donc la prophétie autoréalisatrice s'emballe une nouvelle fois. À partir du moment où ils prennent peur, ils exigent des taux d'intérêt avec des primes de risque exorbitantes pour prêter à l'Italie. Et ce sont ces taux d'intérêt avec une prime de risque exorbitante qui font que l'Italie ne peut plus s'endetter dans des conditions normales et qui fera donc que, sans doute, elle sera très prochainement en position de faire défaut. Et ceci se répercute tout de suite sur, déjà, les taux d'intérêt français. À partir du moment où, à travers le Fonds européen de soutien financier, nous sommes caution solidaire de l'endettement qui sera fait par ce fonds, qui devra un jour ou l'autre soutenir l'Italie, eh bien d'ores et déjà, les taux d'intérêt se tendent sur la dette publique française. C'est-à-dire que nous sommes à un moment de la crise sur les dettes publiques où la contagion a déjà atteint l'Italie et le point de rupture est atteint pour l'Italie, et la contagion s'est déjà étendue à la dette française. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
On va entrer dans la question du plan de rigueur. Donc on va voir s'il est de nature différente. Est-ce que les réponses en France sont de nature différente à celles qui ont été données en Grèce, puis en Italie, enfin, il y a eu d'autres pays. Mais auparavant, est-ce que, Franck, sur la vision de la situation, tu as le même point de vue que Laurent là, sur cet effet de contagion?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que on est dans une véritable contradiction. C'est-à-dire que les craintes sur la capacité de l'Italie à tenir ses engagements financiers se manifeste par une montée des taux d'intérêt sur la dette souveraine italienne qui constitue, tout le monde en est persuadé, le plus sûr moyen pour que l'Italie ne parvienne pas à rembourser. Et c'est une parfaite contradiction. Ce à quoi il faut réfléchir, c'est comment on en est arrivé là. Mais on en est arrivé à une situation qui, effectivement, n'est plus gérable. La machine s'est emballée et pour l'instant, on ne sait pas comment l'arrêter. Les réactions actuelles à la crise, c'est la montée des taux d'intérêt sur les dettes publiques et l'austérité budgétaire, dont on sait pertinemment qu'elles aggraveront les problèmes qu'elles sont censées traiter. C'est par définition une contradiction.
Alors justement, manifestement en Grèce, au Portugal, en Italie, ce sont des politiques d'austérité. Donc on voit bien que la conséquence, ça sera la perte de croissance, enfin, et donc l'accroissement du problème de la dette. Est-ce que la réponse en France, avec le plan de rigueur, le dernier, on est dans la même démarche?
Alors, on est exactement dans la même démarche, et donc quand on dit ça, on rentre dans la contradiction qu'indiquait Franck, et on commence à la décrire dans son épaisseur. La France ne craint, enfin, les gouvernants français ne craignent rien d'autre aujourd'hui qu'une dégradation de la note de la dette publique, c'est-à-dire ne craignent rien d'autre que les agences de notation financières finissent par dire que la capacité de la France à honorer ses titres de dette se dégrade. En tous les cas, la probabilité que la France l'honorera est réellement se dégrade. Et donc, ces agences de notation sont prêtes à dire que cette dette n'est plus aussi fiable qu'auparavant, et donc à augmenter l'inquiétude de toutes les institutions financières qui détiennent cette dette. Donc, pour l'instant, si on compare l'épaisseur du problème tel qu'il a été atteint en Grèce ou en Italie, pour la France, la tension reste encore un tout petit peu raisonnable. Mais la seule réponse qui est donnée pour l'instant, c'est les marchés financiers menacent de dégrader la qualité de notre endettement, et donc on va répondre par une politique qui vise à les rassurer. Et c'est-à-dire à redresser tout de suite les finances publiques, très rapidement, et par des moyens, alors là, qui, peu importe les moyens, voilà, c'est à peu près ça. Simplement, la partie, pour l'instant, se joue un tout petit peu à un niveau plus faible qu'en Grèce, mais les moyens sont à peu près les mêmes. Je voudrais donner quand même deux exemples, deux ou trois. En Grèce, pour essayer de redresser les finances publiques, on a augmenté la TVA. Et en France, on s'achemine vers une augmentation des taux de TVA, faisant passer le premier taux de 5,5 à 7. Alors, pas toujours à mauvais escient d'ailleurs, hein, parce que ça permettra de récupérer un petit peu les ristournes de TVA qui avaient été faites dans le domaine de la restauration, on en grignote un petit peu. Mais, donc réponse par l'augmentation de la TVA, réponse par écorner les dépenses sociales. Et parmi les mesures qui écornent les dépenses sociales, les mesures qui écornent les dépenses de retraite, enfin les prestations de retraite. Et donc là, le gouvernement a annoncé qu'on accélérerait le passage à la retraite à 62 ans, hein, en anticipant d'un an ou deux les réformes qui avaient été prévues ultérieurement. Et puis, donc, TVA, retraite, et troisième volet du triptyque, mais qui est général, hein. Troisième volet du triptyque, on baisse les salaires des fonctionnaires. Alors en France, ça ne se traduit pas par une baisse nette de leur salaire, mais ça se traduit par un blocage de l'évolution de leur rémunération, qui fait que, grosso modo, leur salaire réel baisse au rythme de l'inflation. C'est-à-dire, depuis 2 ans, les salaires des fonctionnaires sont écornés du montant du rythme de l'inflation, en gros de 2% par an. Bon, donc l'air de rien, si on prolonge le même remède pendant 5 ans, sans vraiment l'avoir dit, on aura fait 10% d'économie sur les salaires des fonctionnaires, et ça veut dire que les fonctionnaires auront perdu 10% de pouvoir d'achat. Donc la France, dans le régime néolibéral de réponse à la crise et du redressement des finances publiques, adopte à peu près les mêmes solutions qu'ailleurs. Hausse de la TVA, c'est-à-dire tout le monde contribue de la même manière et sans justice particulière au redressement des finances publiques. Et deux, on fait porter l'ajustement sur les retraités et sur les fonctionnaires. Alors, il faut le dire quand même, avec pour l'instant en France une échelle de réponse qui n'a rien à voir avec la violence de l'ajustement en Grèce et qui n'a rien à voir avec la violence de l'ajustement qui est prévue pour les Italiens. Mais bon, sait-on jamais, hein. Alors, et donc si on analyse, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si on analyse les plans de rigueur qui ont été annoncés sous la pression des marchés financiers par le gouvernement Fillon depuis 3 mois, en gros c'est 2 annonces, hein, c'est les annonces de la fin de l'été et puis c'est les annonces qu'on a aujourd'hui, on nous annonce 18 milliards par an de redressement des finances publiques, ce qui, soit dit en passant, n'est pas forcément à la hauteur du problème. Hein. Bon. 18 milliards de redressement des finances publiques. Quand on regarde tout ça, c'est une espèce d'inventaire à la Prévert absolument inouï. C'est-à-dire que vous avez une accumulation de mesures très parcellaires qui, la plupart d'entre elles, ne rapportent pas plus de 500 millions par an. Et donc on est à une accumulation de mesures qui fait une vingtaine de mesures, dont aucun économiste n'est incapable de faire le bilan. Qui va payer quoi? Quelle est l'incidence fiscale de tout ça? C'est vraiment le gros foutoir. Bon, la seule chose qu'on peut dire de toutes ces mesures, c'est qu'elles sont un moyen soigneusement étudié de contourner absolument la mesure qu'on ne veut vraiment pas prendre, c'est celle de l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Donc, moi, je comprends les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on tire un petit peu dans tous les coins, on saupoudre, tout ceci devient illisible, mais la seule chose qui est vraiment lisible, c'est que pour restaurer les finances publiques, pour l'instant, le véritable tabou, comme disent parfois les médias, mais celui-là, il est vrai, c'est un vrai tabou, le véritable tabou, c'est de s'attaquer à l'impôt sur le revenu et donc aux prélèvements sur les catégories aisées de la population qui sont complètement épargnées par cette affaire. Alors, on pourra dire deux mots sur la taxation exceptionnelle des très hauts revenus ensuite, mais enfin, c'est une coquetterie marginale.
Philippe, une question?
Oui, non, je sais pas. Bon, mais en fait, tu as un peu répondu. La question, c'est si la situation est finalement la même et si les mesures qui sont prises partout sont du même ordre et conduisent finalement à chaque fois à ne pas régler la situation, pourquoi il y a cette homogénéité des politiques qui sont menées, quoi? Est-ce que c'est par, je sais pas moi, un effet idéologique pour ne pas s'attaquer à certaines catégories de la population? Enfin, quel est le moteur, quoi?
Alors, ouais, Laurent, peut-être Franck après donnera son point de vue. Ok. Franck, d'abord.
Oui, c'est un effet idéologique, mais l'idéologie, c'est la rencontre de manière un peu abrupte, c'est la rencontre d'une théorie économique et des intérêts des classes possédantes. Or, la caractéristique du développement de la discipline économique depuis, une trentaine d'années, c'est l'élaboration de théories économiques dont les conclusions se trouvent être systématiquement favorables aux intérêts des classes possédantes. Je crois que la théorie économique a une grave responsabilité dans la situation catastrophique qui est actuellement la nôtre. Les économistes qui ont tenu le haut du pavé depuis la fin des 30 années de keynésianisme, ont systématiquement élaboré des théories plus ou moins sophistiquées, mais dont les conclusions étaient systématiquement favorables aux intérêts des riches et des possédants. C'est dire les choses un peu brutalement, mais je crois que c'est là le fond du problème.
Donc l'efficacité en fait de ces mesures est nulle du point de vue même du but affiché.
Bon, déjà elles sont en dessous de l'enjeu parce que plusieurs rapports, et Dieu sait, on peut remercier le fait de, enfin bénir le fait de vivre encore en République. Il y a quand même un certain nombre de rapports effectués par nos institutions nationales, comme la Cour des comptes ou la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui étudie quand même un peu sérieusement les questions. Enfin, c'est pas complètement une république bananière, donc les chiffres sortent, les données sortent. Et on sait quand même que pour la France, sur un déficit budgétaire qui avoisine les 120 milliards d'euros, il y en a les deux tiers, voire les trois quarts, qui sont dus au fait que on a procédé, les gouvernements successifs ont procédé depuis 2000, à des abattements de cotisations sociales et à des abattements d'impôts, à la fois sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la fois l'impôt sur les sociétés. Et donc il nous manque grosso modo chaque année dans les caisses de l'État 100 milliards d'euros. Donc la crise des finances publiques, c'est pas simplement et même pas du tout, le fait que les États soient partis dans des plans de dépenses faramineux, négligents, dispendieux, etc. C'est dû au fait que nous ne prélevons plus l'impôt sur ceux qui peuvent le payer. Bon. Donc tout ça, tout ceci est dans des rapports parlementaires ou dans des rapports de la Cour des comptes. Hein. Ce n'est pas le programme présidentiel du NPA, hein, ce qu'on est en train de raconter. Alors, même dire on veut redresser les finances publiques et on fait des plans de l'ordre de 18 milliards d'euros par an, certes, ce que n'ont pas encore découvert les journalistes, mais certes, maintenant, majoritairement quand même, par de nouvelles hausses d'impôts. Hein, et sur ce point-là, moi, j'ai rien à dire. Je pense qu'à un moment donné, si on veut se payer des biens publics, il faut prélever l'impôt. Mais ça, et apparemment, les commentateurs ne l'ont pas encore réalisé. Et donc, c'est peut-être le seul mérite des plans de rigueur français, c'est que maintenant, c'est moins par la restriction des dépenses que par l'augmentation des impôts qu'on essaye de régler le problème des aides publiques en France. Bon. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, on est incapable de voir dans l'essaimage des mesures sur qui ça pèse, etc. Le vrai, je reviens là-dessus, le vrai tabou, c'est pour l'instant, on n'augmente pas l'impôt sur les revenus. Et quand même, il faut donner des chiffres pour que les gens se rendent compte. La tranche la plus élevée de l'impôt sur le revenu, c'est 41% en France. Bon, je rappelle que pendant ce qu'on a appelé la période des Trente Glorieuses, même en Angleterre et même aux États-Unis, c'était 80%, le taux d'imposition marginal sur les revenus. Personne ne s'était risqué à dire que l'Angleterre était devenue un pays socialiste, et encore moins les États-Unis. Bon, c'était 80%. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, c'est 41%. Bon. Quand est-ce qu'on atteint cette tranche ? Quand est-ce que, finalement, vous êtes assujetti à un paiement de 41% de l'impôt sur le revenu ? Vous êtes assujetti à cet impôt à partir du moment où vos revenus dépassent 71 000 euros par an et par part. Et par part. Alors, prenons un exemple. Ça veut dire qu'un ménage composé de papa, maman et deux enfants, dans le droit fiscal français, ça fait trois parts. Une part pour chaque adulte et puis une demi-part pour chaque enfant. Trois parts. Donc pour rentrer dans la tranche d'imposition à 41%, il faut gagner 3 fois 71 000 par an. Donc 210 000 euros par an. Et attention, ça ne veut pas dire que sur ces 210 000, on va vous en prendre 40%. Non. Ça veut dire que sur les revenus qui dépassent 210 000, on vous en prendra 41%. Sur les revenus inférieurs, c'est 30%, et sur les revenus encore inférieurs, c'est 15%, et sur les revenus encore inférieurs, c'est 5%. Bon. Donc, vous voyez un peu ce qui est devenu le seul impôt redistributif en France. Enfin, je ne parle pas des impôts sur le patrimoine, parce qu'eux, ils sont carrément disparus. Hein. Il n'y a plus d'ISF, quasiment, et il n'y a plus d'impôt sur les transmissions, quasiment. Bon. Donc, le seul impôt qui reste en France redistributif, c'est l'impôt sur le revenu. Vous imaginez à partir de quel moment on commence à payer des impôts significatifs. Alors, le gouvernement dit ouais, c'est vrai, on va toucher un tout petit peu à ça, on va créer une taxe sur les très hauts revenus. Il faut quand même donner une idée de ce que c'est que cette taxe. Un couple qui déclare des revenus salariaux, bon déjà, c'est pas des salariés employés dans les fonderies de Dunkerque, hein, d'accord. Déjà, ça c'est un peu les échos. Un couple déclarant des revenus salariaux de 1,2 million d'euros par an. Bon, on se demande si ça existe, hein, mais ça doit exister dans la finance ou dans la banque. Bon, déjà, là, on voit le biais journalistique. Alors, eux, ils vont voir leur impôt, leur taxe, augmenter de 5 000 euros. 5 000 euros sur 1 million d'euros, c'est 5 pour 1000. D'accord ? 5 000 euros, c'est deux bouteilles de Château Cheval Blanc. Hein. D'accord ? Si vous en servez une à l'anniversaire du petit et une à Noël, ouais. Ça coûte 5 000 euros quand même. Bon, donc l'impôt sur ces catégories aisées va augmenter de 5 000 euros. C'est énorme. Alors on a l'impression, chérie, j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais entre chérie, j'aimerais pas que ça m'arrive et chérie, on gagne pas encore 1,2 million d'euros par an. On voit qu'on est dans quelque chose qui est complètement... Enfin, tout est fait pour contourner en fait la vraie ponction sur les riches. Je donne un autre exemple, ça c'est Les Échos qui publie ces chiffres. C'est un très bon journal hein, de ce point de vue-là. Un célibataire qui déclare un salaire annuel de 80 000 euros. Bon, c'est déjà pas la misère. Hein. Et qui en plus a réalisé une plus-value immobilière dans l'année de 600 000 euros. Donc, il a vendu un immeuble qu'il avait dans le 7e arrondissement et il l'a vendu 600 000 euros de plus que ce qu'il a acheté, j'en sais rien moi, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Combien il va payer d'impôts en plus cette année? Zéro. C'est quand même dans les échos. Zéro. D'accord. Et cette taxe sur les très hauts revenus, elle est provisoire. Donc, elle est complètement réversible. C'est-à-dire qu'une fois, entre guillemets, que les difficultés seront passées, ben ça, c'est peut-être le seul espoir que ces revenus continueront à être prélevés, mais une fois que les difficultés sont passées, tout ceci est réversible. Donc, je crois que la véritable orientation politique et idéologique de toutes ces mesures, c'est surtout ne pas toucher aux tranches de l'imposition sur le revenu et surtout ne pas aller prélever l'impôt sur ceux qui peuvent le payer. Je donne un deuxième peut-être élément de conviction sur ce point, c'est que une mesure a été prise en défaveur des grandes entreprises qui consiste à augmenter l'impôt sur le bénéfice de ces très grandes sociétés. Quel va être le produit de cette mesure? De mémoire, parce que là je ne retrouve pas dans mes fiches, mais de mesure ça va faire 1 milliard d'euros prélevés en plus par an. Bon. Sur des sociétés du CAC 40 qui réalisent 100 milliards de bénéfices par an. Donc 1%, je crois que même quand je fais l'aumône, je dois donner plus d'1% de mes revenus par mois, enfin même quand je donne la pièce. Bon. Donc on demande vraiment aux grandes sociétés cotées en bourse, etc., de donner la pièce. Et alors à quoi ça sert tout ça? C'est vraiment des mesures dilatoires qui servent à distraire le peuple et tout ça en faisant comme si tout le monde avait payé son écho, mais personne.
Alors peut-être c'est ce que tu avances comme explication, hein, l'arrêt du prélèvement de l'impôt en gros sur les riches pour aller vite, ça explique le déséquilibre budgétaire. D'où la dette. Mais disons qu'il y a seulement 3 ans, quand il y a eu la crise des subprimes, etc., on avait les dirigeants du monde avaient un discours qui était il faut remettre en cause la financiarisation, il faut prendre des mesures. Là, la question de l'impôt réglerait le déséquilibre budgétaire. Mais le problème, ce n'est pas seulement la dette, c'est que la dette, elle est due, elle est, comment dire, c'est quelque chose qui est prêté par les marchés financiers. Mmh. Et ça, on n'en entend plus parler du tout. Et même au contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a quand même une dimension idéologique dans les plans de rigueur français, même s'ils n'ont pas une efficacité évidente, c'est que le raisonnement, c'est un peu de dire aux gens, il va falloir vous serrer la ceinture, il faut retourner dans les contre-réformes, les retraites quand même, c'est gros quand même, les gens ont fait des grèves extrêmement importantes il n'y a pas si longtemps, et puis on en remet une louche et on ne touche plus du tout à cet aspect de financiarisation. Alors, j'ai une question peut-être à vous poser là, à tous les deux, Franck et Laurent. On dit que la dette en Europe, elle est principalement détenue par, par les banques. Les banques européennes. C'est ça, c'est vrai, oui. c'est une réalité, ça? Parce qu'il faut trouver un levier, faudrait trouver un levier pour attaquer ce problème-là, non?
Non, mais parce que... Il n'est pas anormal que les dettes soient détenues par ce qu'on peut appeler l'ensemble des institutions financières. Bon. Pourquoi? Parce que...
Quand tu dis institution financière, ça peut être privé, banque privée.
Ah bah oui, oui. C'est à 95,
non mais c'est le mot institution qui peut prêter à...
Ah non, c'est privé. Alors pourquoi le terme institution? Parce que ça met dans le même paquet un certain nombre d'institutions différentes, les banques, les compagnies d'assurance... essentiellement à travers la gestion de trésorerie de ces compagnies d'assurance, parce qu'on paye nos cotisations avant d'être indemnisé de nos sinistres, et puis parce que l'assurance en France, c'est essentiellement de l'assurance vie. Bon. ce qu'on appelle les mutual funds, c'est-à-dire les fonds de collecte d'épargne collective, SICA, fonds communs de placement. Et puis, on n'en a pas beaucoup en France, mais il y en a quand même, mais c'est surtout dans le monde anglo-saxon, les fonds de pension. Toutes ces institutions financières, d'une certaine façon, sont des intermédiaires entre les épargnants, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent et qui sont relativement aisés et qui peuvent prêter de l'argent, et les emprunteurs ultimes. Bon. Ces intermédiaires sont là parce que même ceux qui ont de l'argent ne savent pas toujours gérer leur argent, et puis surtout veulent ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils veulent diversifier les risques, et donc ils apportent cet argent à des intermédiaires qui l'utilisent à leur place. Bon. Donc tous ceux qui détiennent les dettes publiques sont ces intermédiaires qui placent l'argent des épargnants quelque part. Et c'est soit dans l'achat d'immobilier, soit dans l'achat de terrain, de golf ou de casino, soit dans l'achat de titres d'entreprise, des actions, soit dans l'achat de dettes publiques. Donc pour l'ensemble de ces épargnants aisés, ces intermédiaires financiers placent l'argent de ces épargnants dans les différentes opportunités financières et immobilières qui existent. Bon. Donc il est normal que l'on retrouve l'essentiel des dettes publiques dans les bilans de ces institutions financières, et dont les plus grandes et les principales sont les banques. Donc là, il n'y a rien de choquant dans cette affaire. C'est que ce qui nous met la pression et ce qui renverse le rapport entre la politique et la finance, c'est que lorsque ces institutions financières viennent à se défier, à juste titre ou à mauvais titre, de la capacité de remboursement des États, eh bien, leur panique fait qu'ils ont tendance à se dessaisir de ces titres de l'État, à vouloir les revendre à d'autres agents économiques, et c'est en voulant les revendre à ces autres agents économiques qu'ils en font baisser le prix sur les marchés. Bon, et alors, bon, un petit saut dans le vide, là, on n'aura pas le temps d'expliquer, mais la baisse du prix de ces titres équivaut, et c'est la même chose,
à la montée des taux.
À la montée des taux d'intérêt.
D'accord.
Ça veut dire la même chose. Bon. Donc c'est la panique de ces agents, et encore panique qui se déclenche encore une fois, à bon ou à mauvais escient. Peu importe, ça produira le même résultat. Ça produira l'augmentation des taux d'intérêt, et l'augmentation des taux d'intérêt produira l'incapacité des États à rembourser leurs dettes. Donc c'est vraiment la panique qui crée la dette, et non pas l'inverse. C'est pas la dette qui crée la panique. Enfin, la dette ou le défaut, on va dire le défaut.
Mais bon, moi, il me semblait avoir compris que auparavant, les États n'empruntaient pas sur les marchés financiers. Et bon, par exemple, oui, ils empruntaient aux banques centrales, oui. Et qu'il n'y avait pas ce mécanisme de possibilité de monter des taux en cours de remboursement. Il me semblait que c'était une des explications que tu avais fournies, Laurent. Franck, peut-être un éclairage.
Oui.
Sous
oui.
Giscard, comment qu'elle s'endettait la France?
Comment qu'elle s'entêtait? Il y avait des avances de la Banque de France au Trésor public, qui lui-même avait un compte courant à la Banque de France. Donc, c'était la Banque centrale qui prêtait à l'État à un taux d'intérêt tout à fait raisonnable, et en tout cas inférieur au taux, nettement inférieur au taux de croissance de l'économie nationale. Et dans ces conditions, la dette publique était parfaitement, comme on dit, soutenable, et la part, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut, de ce qu'on appelle le poids de la dette, n'avait aucune raison, a priori, d'augmenter. Et d'une certaine façon, l'État s'endettait dans la mesure où les agents privés, essentiellement les entreprises et accessoirement les ménages, ne souhaitait pas s'endetter suffisamment pour assurer une croissance économique. Et donc, cette dette publique, elle était tout à fait, c'était un élément, l'un des ingrédients d'une croissance relativement régulière qui assurait le quasi plein emploi. Mais ces temps-là sont très 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 loin derrière nous, de sorte qu'on ne comprend même plus comment ça pouvait fonctionner. On a perdu le secret.
Il y avait les avances de la Banque centrale au Trésor. On pourrait dire ça, c'était la trésorerie de l'État quand même.
Oui.
C'était un peu la trésorerie. Bon. Mais sur le fond global de la dette, l'État plaçait des bons du Trésor auprès des banques commerciales, mais qui les gardait jusqu'à échéance. C'est-à-dire qu'il y avait des bons du Trésor émis sur 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans, peut-être plus longtemps, je ne sais pas. Mais en tous les cas, les banques commerciales finançaient l'État directement, et n'avait pas la possibilité, avec ses financements, d'aller les revendre sur un marché secondaire. Bon. Donc voilà, c'était une dette qui était hors marché. Soit c'était la banque centrale, soit c'était les banques privées. Mais enfin, une fois que vous aviez pris de la dette, c'est terminé, vous l'aviez, et vous l'aviez jusqu'à l'échéance. Bon. Et c'est à partir de 1986 et le Big Bang financier que les États, espérant pouvoir financer leur déficit à moindre coût, ont sorti cette théorie suivant laquelle, si on ne s'adressait pas à des intermédiaires, les banques, c'est des intermédiaires, si on ne s'adresse pas à des intermédiaires, on va emprunter directement aux épargnants. Et donc, on va faire baisser le coût auquel on nous prête de la dette. On va faire de la finance directe. Et faisant de la finance directe, on ne va plus faire appel aux banques et aux crédits pour financer la dette publique. On va faire appel directement aux épargnants. Directement, on a vu tout à l'heure qu'en réalité, ce n'était pas si directement. C'était par rapport à travers les fonds d'investissement, etc. Et, ah oui, mais comment ces gens-là vont nous prêter? Pourquoi ils vont nous prêter? Parce que s'ils nous prêtent pour 10 ans et qu'on leur dit vous êtes scotché pendant 10 ans avec votre prêt, ils ne viendront jamais nous prêter. Donc on leur organise des marchés d'occasion sur lesquels le jour où ils veulent revendre la dette, ils pourront. Donc comme on dit en langage technique, pour qu'ils veuillent bien nous prêter à des taux d'intérêt plus bas, il faut qu'on leur assure la liquidité de leur prêt. Assurer la liquidité de leur prêt, ça veut dire qu'ils peuvent faire machine arrière quand ils veulent et trouver donc d'autres porteurs de la dette. Donc l'État, enfin ça c'était le discours officiel, et Bérégovoy, voilà, ce discours-là, il a essayé de nous le mettre au fond du crâne. Pour que l'État puisse s'endetter à moindre frais, il faut qu'il puisse s'endetter sur les marchés et non plus auprès des banques, sur les marchés voulant dire directement auprès des épargnants, et assurer ensuite, organiser le marché secondaire de la dette public qui aujourd'hui se retourne contre nous.
Alors avant qu'on fasse une petite pause musicale et puis il faut qu'on n'oublie pas de donner la parole à Philippe sur son éclairage philosophique, juste une petite question si vous pouvez essayer de répondre assez rapidement. Qu'est-ce que vous pensez, vous deux économistes, sur l'idée d'un moratoire sur la dette, d'un audit qui permettrait de faire la part entre dette légitime, dette illégitime. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse aujourd'hui qui a un sens? Alors, elle a certainement un sens par rapport aux populations, mais y compris d'un point de vue économique, est-ce que c'est tenable? Qui commence? Frank Van Velde.
J'ai jamais réfléchi à la question et une réponse spontanée, ça serait que toute dette avec un taux d'intérêt supérieur au taux de croissance de l'économie est par définition illégitime. Ça, c'est une position de principe. Ensuite, organiser une procédure qui permettrait de distinguer entre dette légitime et illégitime, j'ai a priori du mal à concevoir. Quelle serait l'instance organisatrice? Quels seraient les critères permettant de distinguer? Je ne vois pas le début d'un commencement de réponse à cette question.
Surtout qui détiendrait la partie de la dette qui est légitime et qui détiendrait la partie de la dette qui ne l'est pas? Ce serait vraiment une vraie difficulté.
Tu rejoins ce point de vue?
Alors, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Franck. Et je rajouterais que malheureusement, on n'aura pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que les choses vont s'emballer à une vitesse inouïe et on va être extrêmement surpris. Et il ne restera plus, à mon avis, comme solution d'urgence. Mais bon, peut-être que je me lâche et je suis un peu frondeur, mais je fais ce pari. Il ne restera plus comme solution d'urgence que d'obliger les banques commerciales à détenir l'ensemble des dettes publiques. Parce qu'en fait, les pouvoirs publics, avec le Fonds européen de soutien financier, il est déjà trop court. Il est déjà trop court, ce fonds de soutien financier, pour racheter la dette italienne. Bon. Donc, la panique va continuer. Et si, en plus, la panique contamine réellement la France, là, on est en dehors de toute possibilité de réaction d'aucun dispositif financier. Et donc, il faudra forcer les banques commerciales à détenir les dettes publiques et à revenir, d'une certaine manière, à la situation ex ante avant la crise. C'est-à-dire les obliger à revenir 3 ans en arrière. Il y a 3 ans en arrière, vous aimiez la dette publique. Vous aimiez la dette publique et vous acceptiez des taux d'intérêt à 4%. Eh bien, aujourd'hui, qu'elle est 25% plus élevée qu'il y a 4 ans, continuez, on vous oblige à continuer à la détenir, à due concurrence de ce que vous déteniez à cette époque. On fait des ratios et des prorata. Et puis, on vous impose le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est, allez, soyons pas vaches avec vous. Quand même, on n'aimerait pas voir les banques chuter tout ensemble. 1% de plus que le taux d'inflation. Voilà. Donc en gros, ça fait 3%. Donc vous détenez l'intégralité des dettes publiques et vous êtes rémunéré à 3% là-dessus. Ça fait quand même 1% de taux d'intérêt réel. Donc vous continuez à vous enrichir en dormant et vous ne viendrez pas renverser les gouvernements démocratiquement élus. Et il n'y a plus de problème. Parce que à 3%, la plupart des dettes publiques européennes sont soutenables. Peut-être pas celle de la Grèce parce qu'elle atteint 200% du PIB, donc 200% du PIB rémunéré à 3%, ça fait quand même 6% du PIB, 6% de la richesse nationale qui file dans les banques, c'est un peu cher. Mais à part la Grèce, tout le reste est soutenable. Donc je pense que c'est la seule solution d'urgence. Je ne dis pas du tout que c'est la solution à la crise, mais je ne vois pas comment on n'en viendrait pas ultimement à cette solution. Simplement, on n'entend encore personne le dire, mais ici, à Radio PFM, ou dans le monde diplomatique, on a dit 2 ans avant tout le monde des énormités énormes qui ont fini par être réalité vraie quelques années plus tard. All these wise guys trying to put us down. We gonna bring them on in. Yeah, bring them on home. Yeah. And a man.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Nous recevons Franck Van Velde et Laurent Cordonnier, tous les deux économistes et enseignants à l'Université Lille 1. Et avec Philippe, nous allons avoir un petit éclairage philosophique sur la notion de monde qui fera certainement écho à tout ce qui s'est dit dans cette émission et dans les émissions précédentes d'ailleurs.
Oui, alors bon. Donc c'est un peu un défi parce que parler rapidement du monde, c'est quand même
mais
si
on savait que tu allais relever le challenge. Et
alors non, mais bon, le point de départ, c'est évidemment toute cette question, cet emploi du terme qui est devenu qu'on entend tout le temps, etc., de la mondialisation. Donc évidemment, dans le terme de mondialisation, on retrouve cette notion de monde. Bon. Alors si on regarde, donc en fait il faut peut-être regarder ce qui résonne un peu dans ce terme-là, quoi. Et bon, c'est un terme qui vient du latin, et l'un des sens du mot du monde, c'est que le monde, c'est ce qui est ordonné, hein, c'est ce qui obéit à un certain ordre. Bon, on trouvait par exemple notamment déjà en Grèce, chez les pythagoriciens, l'idée que le monde, c'est quelque chose qui est un arrangement, quoi, qui est un peu opposé au chaos, hein. Il y a le chaos d'abord, puis on ordonne le monde. Alors, de la même façon, bon, si on regarde cette question du monde, donc le monde, c'est les différents sens, quoi, la Terre, les astres, hein, l'univers. Bon, donc la mondialisation, ce sera ce qui devient universel, quoi. Et ensuite, c'est aussi, et ça c'est assez intéressant, parce que c'est la Terre comme habitat de l'homme, quoi, c'est-à-dire, et l'humanité elle-même, par conséquence, en quelque sorte. Donc ça, c'est intéressant pour nous, parce que ça veut dire que le monde, c'est le monde humain, quoi, hein. Et si on va plus loin, si on prend un des sens dans la manière dont on emploie le mot monde, quand on dit un monde, c'est un monde, ça veut dire que c'est un endroit où on peut se retrouver. Le monde, c'est quand même, par exemple, je sais pas, le monde de Mozart, le monde de l'hôpital, le monde de Picasso, c'est un endroit où on s'y retrouve, on peut se tenir, etc. On peut l'habiter. Hein, c'est le sens premier de l'habiter qui vient de habere en latin, qui veut dire se tenir quelque part, s'y retrouver, s'y reconnaître, etc. On y a des habitudes, par exemple. Bon. Et enfin, un des sens aussi, mais là, je pense qu'on n'aura pas le temps de développer, c'est le fait que le monde, et peut-être le monde de la mondialisation aussi, c'est ce monde-ci. C'est le mondain, hein, et c'est l'économie aussi, c'est les valeurs mondaines, hein, les valeurs du monde terrestre opposées au ciel, au monde céleste, la cité terrestre contre la cité céleste, quoi. Bon, donc si maintenant, à partir de là, on interroge un peu cette notion de mondialisation, bon, on nous dit quoi en général ? On dit la mondialisation, c'est inévitable, hein ? Ce serait, c'est presque un sens de l'histoire, quoi, voilà, c'est bon. Et c'est ce qui caractérise la situation que nous vivons aujourd'hui, le marché mondial et les nouvelles technologies qui font que je peux être au courant de tout et de n'importe quoi à tout moment, en tout lieu, à tout instant, et qu'un Chinois, bon voilà, ce qui se passe en Chine, je peux le voir. Bon, donc c'est une espèce de communication instantanée. Bon, mais il y a aussi une autre idée sur l'idée d'universel, sur la notion d'universalité. C'est ce rêve des Lumières, par exemple, qu'il y aurait une cité universelle. Hein. Donc l'idée du rêve cosmopolitique, quoi. Le cosmopolis, c'est-à-dire la ville qui a l'état du monde, où, un endroit où tout le monde serait finalement effectivement citoyen dans un monde unifié. Bon. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on voit ? Alors là, c'est vraiment des pistes, et puis on pourra peut-être, si on a le temps, en discuter un peu. Bon, évidemment, on voit bien que d'une part, la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, certes, il y a des phénomènes nouveaux qu'on vient de signaler, hein, le marché mondial, le développement de nouvelles technologies, etc. Mais ça s'inscrit évidemment dans un temps long, hein, qui est celui... bon, on peut dire que finalement, sa jeunesse, c'est quand même sans doute le capitalisme, le capitalisme et sa mise en place à partir du 15e, 16e siècle, avec cette accumulation illimitée, hein, du capital. Donc, je cherche toujours à obtenir du capital pour en avoir plus, quoi. C'est, bon, qui est la caractéristique quand même d'une société, l'un des moteurs et peut-être la seule société, au fond, le capitalisme est la seule société qui tend à faire systématiquement de cette illimité, de cette accumulation illimitée, sa loi et son moteur. Bon. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est... Et donc c'est bien ça quand même qui est à l'origine, y compris de la mondialisation telle qu'on va aujourd'hui. Alors la question qu'on peut se poser, c'est d'une part que on a un premier phénomène que, bien sûr, ça part de l'Occident. Hein. Bon, le capitalisme est né en Europe, etc. Et donc, c'est aussi une occidentalisation du monde. En même temps, on a le sentiment que ce monde qui s'occidentalise, cet Occident qui s'universalise, pardon, en s'universalisant, est en asperde. C'est-à-dire, c'est toute la question aujourd'hui à laquelle on est confronté aussi, c'est-à-dire l'émergence de nouveaux acteurs, est-ce qu'on est encore le centre, etc. Bon. Autre question aussi, c'est est-ce qu'on est vraiment devant une unification au sens l'abolition des frontières, etc. L'abolition des frontières et tout ce qui s'ensuit. Bon, puisque ça nous est présenté comme ça. Évidemment, on ne peut pas être contre. Hein. On veut tous pouvoir discuter avec son cousin italien. Là-dessus, évidemment. Sauf que, alors je prendrai juste un petit exemple que donnait Noam Chomsky. Hein, il donnait l'exemple de la frontière mexicaine. Bon. Et il disait, voilà, la frontière mexicaine, quand il y a eu les traités, l'ALENA, et donc les traités de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique, en fait, traditionnellement, la frontière mexicaine était assez poreuse, quoi. Et en 94, quand il y a eu ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a militarisé la frontière. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une rationalité dans laquelle, oui, libre-échange, certes, des capitaux, etc., mais en même temps, les frontières se ferment. Hein, paradoxalement, ou peut-être pas paradoxalement d'ailleurs, pour les hommes eux-mêmes. Puis après, il y a aussi évidemment de nouvelles frontières qui sont créées par les effets induits d'une économie comme ça, néolibérale, de libre-échange, etc. Hein, c'est-à-dire au fond des gens qui sont rejetés hein, et dont on ne peut plus rien faire. Des populations entières, alors on peut penser... on n'a pas le temps de développer, il faudrait parler des villes, des bidonvilles dans le tiers-monde, dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, etc. Bon, tout ça, hein, ce que parfois, dans un autre cadre, Hannah Arendt appelait l'humanité superflue, hein, dont on ne sait plus quoi faire. Bon, elle parlait de ça à propos des totalitarismes, etc. Mais voilà, est-ce qu'on n'a pas finalement, en même temps, créé, on n'est pas en train de créer une espèce d'humanité superflue, hein, et donc on aurait un monde qui, en s'unifiant, se fragmente en réalité. Et d'autre part, hein, on disait qu'il y avait derrière cette idée de mondialisation une espèce de rêve cosmopolitique où tout le monde accéderait au statut de citoyen. Bon, on voit bien que là, évidemment, c'est pas du tout ce qui se produit. Hein. Si on a une partie de la population qui devient une humanité superflue, bon, on est très loin de ce rêve cosmopolitique, etc. Bon. Donc il y a là une contradiction fondamentale. Hein. Et de la même façon... Ça, l'autre point peut-être, cette mondialisation comme sens, ben on peut se demander si c'est peut-être une direction que prend l'histoire, mais est-ce qu'elle a vraiment une signification ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un monde, c'est-à-dire un lieu dans lequel on se retrouve et où ça a un sens ? Hein, est-ce que, bon, on nous dit, voilà, c'est inévitable, c'est là qu'il faut aller. Bon, en fait, on a plutôt l'impression qu'on a affaire à une espèce de raison instrumentale, hein, c'est-à-dire, la raison instrumentale, c'est que la Terre est un instrument dont on se sert. La Terre et les hommes, d'ailleurs, est un instrument dont on se sert hein, pour finalement, qui ne s'interroge pas sur les finalités, quel est le but de tout ça, hein, avec le but étant l'accroissement illimité du capital, la puissance technique, etc. Bon. Donc ce n'est plus un lieu habité par les hommes, hein, mais finalement une espèce de pur instrument. Peut-être d'ailleurs que la forme ultime de ça, c'est la crise écologique, où on voit bien que là, pour le coup, presque ça devient un monde inhabitable. Quoi. Donc pas un monde. Et enfin, juste pour finir... Hein, deux choses. Bon, cette mondialisation, du coup, elle a une double... Enfin, à la fois, il faut trouver un sens dans ce monde, puisque à ce moment-là, il n'y a plus d'autres mondes. Hein, il n'y a plus le monde céleste, etc. Bon, et ça met en crise toute une série de sociétés. Et peut-être elle a un dernier effet de clôture, c'est que... Et pourtant, on ne trouve pas de sens dans ce monde. Quoi. Bon. Et le dernier effet de clôture, c'est qu'on a l'impression qu'on peut tout imaginer, que tout est possible, tout est permis, etc. Même la fin du monde. Alors, on voit tous les jours des films sur la fin du monde, sous toutes ses formes. Par contre, il y a une seule chose qu'on ne peut pas imaginer, ou qu'on nous interdit d'imaginer, peut-être, c'est la fin de la mondialisation capitaliste elle-même, ou une autre façon, en tout cas, de la vivre.
Merci Philippe. Alors on va demander à Franck et Laurent une réaction. Alors, je suis obligé de vous dire de le faire en 30 secondes, une minute maximum, chacun. Franck ?
Oui, ce que ça m'a évoqué parmi d'autres idées, c'est la définition du capital par Marx. Le capital, c'est une valeur qui s'auto-valorise en changeant de forme. Et le seul contenu du capital, c'est l'accroissement de la valeur abstraite. Et c'est ça l'illimitation du moteur de l'économie mondialisée. C'est l'accroissement de la valeur abstraite qui, par définition, est indéfinie. Et qui a entraîné tout notre monde dans son mouvement.
Et qui Laurent. Permet de surmonter toute hétérogénéité, puisque... Mais je pense qu'il faudra reprendre l'éditorial de Philippe une autre fois. Deux remarques très rapides. Je pense que Philippe a dit quelque chose de très juste, mais il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout de ce qu'il pensait. Les individus, les personnes, on va dire ça comme ça, ont le droit de circuler sur la planète uniquement en tant que consommateurs. Tout le reste, c'est faux. Pas en tant que père de famille, enfant, etc. Regroupement familial, ça marche pas. Travailleur, ça marche pas. Artiste, ça marche pas. Donc la seule qualité qui vous permet de voyager partout, y compris dans les pays les plus fermés à quoi que ce soit, c'est votre qualité de dépensier ou de consommateur, c'est-à-dire celui qui fait fructifier la marchandise. Et deuxième point peut-être qui me faisait réagir, et c'est pour manifester mon accord, je pense que mon accord, et en même temps un peu une modulation, la mondialisation qui est présentée comme un processus naturel n'est pas un processus simplement embarqué par le sens de l'histoire ou le sens du torrent. Quand même, l'OMC et l'abolition de toutes les barrières douanières tarifaires, c'est quand même une œuvre grandiose. Et aucun État tout seul dans son coin ne ferait cela, diminuer ses barrières tarifaires en craignant d'être soumis à celles des autres. Donc c'est quand même un concert grandiose, énorme, disciplinaire, fantastique. Il fallait la rigueur d'une idéologie pour y arriver et il fallait une organisation politique très très pointue. Donc je veux dire, les mondialisateurs ont construit une œuvre politique absolument énorme. Le libéralisme, c'est une œuvre politique. C'est pas seulement du laisser aller.
Voilà, débat à suivre, malheureusement, là, il est vraiment.
Je suis d'accord.
D'accord. Allez, à bientôt. Fin du magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30. Rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h. Et sur le net radiopfm.com. Salut donc et à la semaine prochaine.